Bonjour, bonjour à tous. Donc, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes amené à voir des patients porteurs de diabète de type 1. Donc, il s'agit d'un podcast destiné aux médecins traitants. On sait que dans votre patientèle, il y a essentiellement des diabètes de type 2. Néanmoins, on voit de plus en plus de cas de patients découverts diabète de type 1, surtout chez les petits de moins de 5 ans. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Moustapha, médecin pédiatre.
Bonjour, Moustapha. Bonjour, bonjour, Anène. Bonjour à tous.
Donc, on va essayer de répondre au travers de situations cliniques à quelques situations courantes qui peuvent arriver en consultation. Donc, Moustapha, je te propose un cas clinique et on aborde le sujet autour de celui-là.
Oui, bien sûr, absolument.
Alors, imaginons qu'il y a Léa, 6 ans, qui arrive au cabinet. Sa mère vous l'amène pour énurésie nocturne depuis quelques jours.
Très bien.
Léa est examinée, elle présente un bon état général, les constantes sont correctes. On constate une pneumonie à air ambiant. Quelques douleurs abdominales, mais l'abdomen est souple et dépressible. Comment on oriente la prise en charge?
Alors, le point clé ici, dans tout ce que tu as dit, elle est venue pour énurésie nocturne depuis quelques jours, mais elle a un bon état général, elle n'a pas d'autres signes, elle a un abdomen souple et dépressible, elle a quelques douleurs abdominales, mais le point clé là, c'est l'énurésie. Donc, énurésie, chez un enfant de 6 ans, la première question à se demander, c'est est-ce que c'est une énurésie primaire ou secondaire? Sachant que la définition d'énurésie primaire, c'est pas de propreté acquise pendant plus de 6 mois. Et à 6 ans, c'est quand même assez rare. Donc là, il y a de fortes chances que si la mère consulte, c'est qu'il s'agit probablement d'une énurésie secondaire. D'accord. C'est-à-dire qu'elle était propre et elle a perdu la propreté. Mm-hmm. Et ça, c'est le point clé. Parce que effectivement, on peut être amené, s'il y a un contexte de problème psychologique ou autre, on peut être amené à dire que il y a des perturbations psychologiques qui ont fait qu'elle refait pipi au lit, elle rentre dans une infantilisation, on va dire. Mais c'est une erreur classique que j'ai vue beaucoup de fois. C'est un piège classique dans lequel il faut pas tomber.
D'accord. Donc là, pour vous, c'est le point qui permet de déterminer le diagnostic de diabète.
À ce stade, oui. À ce stade, oui.
Il n'y a pas d'autre diagnostic possible.
En tout cas, c'est le plus urgent et le plus grave.
Ok.
Effectivement, il faut, dans la démarche diagnostique, commencer par éliminer ce diagnostic qui, malheureusement, n'est pas si fréquent. Donc, on n'y pense pas souvent. Mais néanmoins, il est rare, mais grave, on va dire. Donc, d'accord. Un moyen simple de l'éliminer, c'est la bandelette urinaire. Ou la présence d'un dextro, mais la bandelette urinaire, tous les médecins disposent d'une bandelette urinaire, et la présence d'une glycosurie associée à une cétonurie signe le diagnostic de diabète. Et là, c'est vraiment...
Ça veut dire que dans l'idéal, chaque médecin traitant doit avoir dans son cabinet une bandelette urinaire?
C'est le cas, je pense que c'est le cas. Il faut avoir un lecteur glycémique, si on peut, avec qui fait la cétone. Ça, le Freestyle Libre 2 ou le Freestyle Libre le fait assez facilement. Donc s'équiper d'un lecteur glycémique qui fait glycémie et acétone me paraît indispensable. Parce que le problème de la bandelette urinaire, c'est qu'il y a un délai entre le moment où on recueille les urines, déjà il faut recueillir les urines, et le moment où la glycosurie a lieu, c'est-à-dire qu'il y a un délai de 4 heures environ, ce qui n'est pas le cas de la glycémie capillaire et de l'acétonémie. Donc l'association hyperglycémie, cétonémie ou glycosurie, cétonurie signe le diagnostic de diabète et c'est à partir de ce moment-là, quel que soit l'état de l'enfant, c'est une urgence.
D'accord. Donc, comment on fait pour confirmer en plus, pour être sûr du diagnostic en plus de la bandelette urinaire?
Alors, si on a fait la bandelette urinaire et qu'elle est suspecte, c'est la glycémie capillaire. Donc, on revient à ce qu'on disait, la nécessité d'avoir un lecteur glycémique. La glycémie capillaire, alors, contrairement au diabète de type 2, ou même contrairement à ce qui est écrit dans certains livres, hein, où il faut des glycémies à jeun supérieures à 1,26, etc.
Est-ce que le médecin peut prescrire une prise de sang tout simplement et pour confirmer le diagnostic et voir un peu ce qu'il en est?
Alors justement, non. C'est là l'autre piège dans lequel il ne faut pas tomber. Justement, on n'a pas le temps pour ça.
D'accord.
On n'a pas le temps pour ça, quel que soit l'état de l'enfant. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup de livres, c'est pas à 1,27 g qu'on a un diagnostic de diabète de type 1. La plupart du temps, ils sont HI ou très élevés d'emblée. C'est comme ça que ça se révèle. tous les diabétiques qui sont...
HI, c'est 5 grammes.
C'est tout à fait. C'est à plus de 5 grammes, exactement.
Donc, c'est une vraie hyperglycémie très importante.
Donc voilà, attendre d'un bilan sanguin ou qui nous montrerait une glycémie à 1,30, à jeun, etc., c'est une hérésie. Il ne faut vraiment pas passer par ça. C'est peut-être une analogie, alors je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est peut-être par analogie au diabète de type 2 où la présentation est plus sournoise et donc forcément les critères diagnostiques sont un peu moins urgents déjà et un peu plus subtils, oui. Mais dans le diabète de type 1, on n'a pas le temps pour, entre guillemets, aller attendre que le patient soit à jeun, attendre le lendemain que la prise de sang soit faite, etc. On perd du temps, c'est tout ce qu'on fait. Et une chose importante à savoir, c'est que quand le médecin traitant prescrit un bilan sanguin à la maman, la mère, elle, est très inquiète. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il y a des mécanismes psychologiques de déni qui la freinent à aller faire cette prise de sang, par peur de découvrir
défense,
une vérité.
En défense, elle reporte sur le diagnostic.
Exactement. Et on a eu plusieurs découvertes de diabète comme ça, où les mamans avaient l'ordonnance pour la prise de sang, mais n'y ont jamais été, et sont arrivées 3-4 jours plus tard avec un diagnostic d'acidocétose, et donc contraintes et forcées de venir à l'hôpital. Et ça, c'est un phénomène qu'on a souvent remarqué. Donc, un, inutile de faire le bilan, et presque illusoire de gros risque que la mère ou les parents ne le fassent pas, même si on leur donne.
Le jour même, d'accord.
Donc la conduite à tenir, c'est envoyer immédiatement l'enfant aux urgences pour qu'il soit pris en charge, et si possible, appeler les urgences en leur disant « Voilà, je vous envoie un enfant chez qui j'ai une hyperglycémie suspecte. » Et comme ça, de cette façon, si on ne reçoit pas l'enfant, eh ben, on s'inquiète et on se dit ben, y a un enfant là qui a un diabète et qui traîne dans la nature, quoi. Donc ça impose cette précaution. Donc je sais que c'est pas tout à fait ce qui est fait, mais vraiment, ça, c'est important de faire de cette façon.
D'accord. Donc là, si on résume dans ce cas clinique, le fait d'avoir l'énurésie, donc de faire pipi au lit...
Oui.
Plus quelques douleurs abdominales, on en tient compte ou pas ?
Les douleurs abdominales, en général, c'est la cétose qui donne des douleurs abdominales.
D'accord.
Donc c'est une fausse piste hein, de s'orienter sur une constipation ou autre. C'est une fausse piste. La cétose, en elle-même, donne des douleurs abdominales.
D'accord.
Le ventre est souple.
D'accord. Est-ce qu'il y a une perte de poids ?
Oui, toujours.
Toujours ?
Mais toujours, il y a toujours une perte de poids. Il y a le syndrome cardinal hein, qui dure depuis déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui associe la polyurie, pour laquelle la mère a consulté, la polydipsie, donc un enfant qui boit beaucoup. Mais là encore, les parents qui disent il boit beaucoup, donc il pisse beaucoup, donc c'est logique.
Ça paraît logique.
Voilà, surtout si on en était et qu'il fait chaud. Et la polyphagie, la polyphagie, c'est le fait de manger beaucoup et de ne pas prendre de poids. Et ça, c'est quatre signes-là, exactement. Donc, ils ne prennent pas de poids et ils en perdent.
D'accord,
donc, ils mangent énormément, comme jamais, et ils perdent du poids. Et ça se voit sur le visage, parfois. Mais parfois, ça ne se voit pas parce qu'on ne pèse pas son enfant tous les quatre matins. Donc, forcément, ce n'est pas évident à mettre en évidence.
Donc, devant ces signes, la première chose à faire, c'est envoyer aux urgences.
Exactement.
On n'attend pas, on ne perd
pas
de temps, on ne fait pas de bilan sanguin. On fait dans l'idéal une glycémie capillaire si on peut.
Tout à fait.
Et si on ne peut pas, on va directement aux urgences.
Exactement. C'est vraiment le message clé à retenir parce qu'il y a trop d'enfants qui arrivent en acidocétose et les urgences sont ouvertes 24 heures sur 24 pour ces patients-là.
D'accord. Merci pour ces précisions. Du coup, on se retrouve pour un deuxième podcast pour avoir quelques éléments en plus.
Supplémentaires, oui. Avec grand plaisir.
Merci. À bientôt.
À bientôt.